Allô, allô, ici Ciné Herri.
En 1989 sort dans les salles françaises le film du réalisateur Bertrand Tavernier, La vie et rien d'autre. Le scénario a été écrit par Jean Cosmos et Bertrand Tavernier. Les excellents dialogues sont de Jean Cosmos et la musique d'Oswald d'Andrea. Les deux principaux rôles sont tenus par les comédiens Philippe Noiret, qui tourne là son 100e film, et Sabine Azéma. Mais il faut aussi retenir les superbes interprétations de Pascal Vignal, Maurice Barrier, Jean-Paul Dubois, Michel Duchossois, François Perrault, Daniel Russo, Jean-Roger Milhaud et François Caron. L'action se situe en octobre 1920, 2 ans donc après la fin de la Grande Guerre. Le commandant de la Plane, incarné par Philippe Noiret, est chargé de recenser les soldats disparus. Pour ce faire, il organise et dirige sur le terrain des fouilles de grande ampleur. Il fait la connaissance de 2 femmes venues rechercher des nouvelles de leurs disparus, l'une son mari, l'autre son amoureux. Mais sa hiérarchie lui ordonne bientôt de trouver la dépouille d'un poilu qui puisse devenir le futur soldat inconnu, qui devra bientôt reposer au pied de l'Arc de Triomphe. Il s'y refuse car il est habité par un véritable acharnement statistique, par le désir fou et inavoué de pouvoir retrouver tous les disparus. Vous comprenez les chiffres, on ne joue pas avec, c'est moral. Longtemps, il ne peut faire le deuil de tous ces disparus. Il s'abîme dans une recherche comptable et mortifère de morts-vivants, jusqu'à ce que finalement, il choisisse de revivre. La question des disparus, l'invention du soldat inconnu, et la puissance de la vie malgré tout et en dépit de tout, sont au cœur de ce beau film. Avec la Grande Guerre, les violences interétatiques se sont caractérisées par de nouvelles formes de destructivité, plus massives, plus extrêmes et plus intensives que jamais. Ce tournant historique, dû à l'industrialisation de la production d'armement, a provoqué des dévastations matérielles et des pertes humaines sans précédent. Le bilan des fameux orages d'acier, pour reprendre le titre d'ouvrage d'Ernst Jünger, à savoir le résultat des bombardements et des pilonnages d'artillerie, ne s'est pas limité, si l'on peut dire, aux 10 millions de soldats morts. Il faut également prendre en compte le nombre considérable des disparus, car il a posé des problèmes bien spécifiques, juridiques, politiques, mais aussi émotionnels et mémoriels. En effet, la sophistication des armes a pour la première fois été telle qu'elle a pulvérisé les corps des combattants, les a fait littéralement disparaître. Après la Grande Guerre, entre 300 000 et 350 000 soldats ont été ainsi portés disparus. Au mieux, leurs restes non identifiables ont parfois été déposés dans des fosses communes. Sous la pression des populations traumatisées, les États ont donc dû organiser une véritable gestion post-mortem en lançant des programmes de fouilles considérables, comme nous le voyons dans le film. Mais ceux-ci n'ont pas suffi. Ils n'ont pas pu remplir la fonction réparatrice et consolatrice que les familles endeuillées attendaient. Il demeurait donc plus que jamais impératif pour la puissance publique de prendre en compte et de traiter politiquement et symboliquement l'affliction et le traumatisme des citoyens devant ces morts en masse. D'où la nécessité d'inventer une solution politique qui puisse réconcilier deuil privé et deuil national, chagrins intimes et commotion collective. Ceci a abouti à l'invention du soldat inconnu. Dans le film, Tavernier nous donne à voir une scène magnifique qui nous montre toute la dérision et le cynisme s'attachant à cette recherche. Le général Villerieux, incarné par Michel Duchossois, s'adresse au commandant de la Plane. « Il me faut un poilu inconnu, c'est votre truc ça. Je le veux demain, dans sa boîte, avec ses bordereaux, ses tampons et tout. » Et d'ajouter à l'officier Perrin incarné par François Perrault, « Mais attention, hein, n'allez pas me mettre un Angliche, un Boche ou... et pas de nègre non plus. » Il semble que ce soit en France, durant l'année 1916, qu'ait été conçue pour la première fois l'idée d'exhumer, puis de réinhumer, un soldat anonyme qui symboliserait à lui seul l'ensemble des victimes tombées au cours du conflit. Ensuite, de nombreux pays ont adopté également le principe d'une telle institution. Le 10 novembre 1920, le ministre français des Pensions, André Maginot, justifia cette disposition en ces termes. Notre principale préoccupation est d'assurer de la façon la plus complète l'anonymat, de telle sorte que les familles qui ont la douleur d'avoir un de leurs membres perdu à la guerre, sans qu'il ait pu être identifié, puissent toujours rester en droit de supposer que l'être qui leur est cher fait l'objet de ce suprême hommage. Celui qui allait devenir le soldat inconnu a donc été exhumé par l'autorité militaire française dans le plus grand secret en novembre 1920, de l'un des 8 grands champs de bataille qui s'étendaient de la mer du Nord à la frontière suisse. Il a été choisi au hasard parmi 8 corps de combattants anonymes dans une casemate souterraine de la citadelle de Verdun, par un simple soldat vétéran de la Grande Guerre, lui-même précipitamment désigné. Il s'agit d'Augustin, lui-même fils de disparu. Une des dernières séquences du film met précisément en scène cette désignation. Pendant la cérémonie très solennelle, le général interpelle le commandant de la plane. « Ça ne vous intéresse pas ?» Et de la plane de répondre « Ça me désole. » Mais eux, ça les rassure. Ils en ont fait tuer 1 500 000. Mais maintenant, on ne pensera plus qu'à celui-là. Ce subterfuge est un scandale.